RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Le cave n'est pas fini. Victoire de Mark Cavendish au sprint à Fougères. Sa 26e victoire d'étape dans sa carrière sur le Tour de France. Le Tour en Bretagne, aux mains de la Grande-Bretagne, puisque Chris Froome est en jaune. Richard Gasquet s'arrête là. Pas de finale de Wimbledon. Il a été battu par Novak Djokovic en demi-finale. Victoire sèche du numéro 1 mondial en 3-7. Johan Cabaye a signé à Crystal Palace. Le milieu du PSG quitte Paris pour le sud de Londres. Il s'est engagé pour 3 ans. Un transfert estimé à 14 millions d'euros. Yannick Nianga, le flanqueur du 15 de France, sera notre invité avant 19h. En direct de Marcoussis, à 31 ans, il mesure sa chance de préparer à nouveau une Coupe du Monde, 8 ans après sa première. Tout de suite, c'est le journal des sports. Bonsoir Guillaume Laniel.
Bonsoir Virginie.
Et on débute avec la 7e étape du Tour de France.
Et on retrouve Christophe Sessieux sur les routes du Tour pour RMC. Bonjour Christophe.
Bonjour Guillaume.
Pas de maillot jaune hein, sur le Tour aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. Pas de chute et une arrivée au sprint avec la victoire pleine de panache du revenant Mark Cavendish.
Et oui, le cab se rebiffe. Notre ami Mark Cavendish, un petit peu en délicatesse depuis le départ de ce Tour. Il avait été battu à la régulière à deux reprises, notamment par André Greipel, qui est son concurrent le plus féroce depuis plusieurs années maintenant sur toute les courses cyclistes. Et bien aujourd'hui, Mark Cavendish a pris sa revanche en signant une 26e victoire sur les routes du Tour. Il se rapproche tout doucement du record absolu détenu par Eddy Merckx avec 34 victoires ou encore Bernard Hinault et ses 28 succès. Mark Cavendish qui malheureusement pour lui aura peu l'occasion de briller à nouveau car vous le savez cette année, le Tour ne fait pas vraiment la part belle aux sprinters. Il y restera peut-être l'étape sur les Champs-Élysées dans deux semaines. En attendant donc victoire de Cavendish qui s'impose devant Greipel et Peter Sagan qui monte une nouvelle fois sur le podium, mais qui n'arrive toujours pas à remporter de victoires d'étape. Le classement général, décidément, ça marche très fort aujourd'hui pour les Anglais, puisque Christopher Froome, qui ce matin avait décidé de ne pas prendre le départ avec le maillot jaune après l'abandon de Tony Martin, et bien ce soir, il a vraiment le maillot jaune sur les épaules. Le conservera-t-il jusqu'à l'arrivée sur les champs dans deux semaines? C'est évidemment toute la question de la deuxième partie du Tour de France qui débute demain, avec notamment l'ascension du mur de Bretagne.
Merci Christophe sur les routes du Tour de France pour RMC. Et puis premier français au classement général, Tony Galopin, quatrième. Vous l'aurez compris, le Tour de France a vécu aujourd'hui une journée plus tranquille que les précédentes. L'occasion de reposer les organismes. Écoutez le coureur français Thibaut Pinot, pour le moins concerné, après son début de tour très compliqué.
Une étape pas trop mal, donc voilà, ça fait deux jours que le peloton est assez calme, donc ça fait du bien. Ouais. Ça permet de blesser un peu mon genou où je suis tombé, et puis ma petite bronchite depuis le début de la semaine, donc voilà, ça fait du bien. Ouais. On est pressé d'être à la journée de repos et autant pressé d'arriver dans les Pyrénées. Ouais.
Demain, 8e étape entre Rennes et Mur de Bretagne.
Et on va passer maintenant au tennis.
RMC Wimbledon 2015.
Et on prend la direction de Londres où nous attend l'envoyé spécial d'RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Bonsoir.
Pas de miracle malheureusement pour Richard Gasquet, battu logiquement on a envie de dire en demi-finale par Novak Djokovic, 7-6, 6-4, 6-4.
Oui, c'est la logique, il était plus fort dans peut-être tous les compartiments du jeu, notamment le service où la différence était flagrante. Richard Gasquet a fini cette rencontre avec 51% de première balle, c'est vraiment trop insuffisant pour espérer mettre en danger Novak Djokovic. Mais jusqu'au tie-break du premier set, il y a eu match jusqu'à 2 points partout et ensuite le Français a perdu 5 points d'affilée et là on a senti qu'il avait pris un petit coup sur la tête et derrière Djokovic a breaké d'entrée de manche, deuxième, troisième set, un scénario immuable et il est allé chercher donc sa qualification après 2h20. Il attend maintenant de connaître son adversaire. En tout cas, ce sera du costaud, quoi qu'il arrive, parce que le début de match entre Federer et Murray, c'est du très lourd. C'est un 7-0 pour Federer, 7-5.
Merci Eric. Et pas de première finale, donc un grand chelem pour Richard Gasquet. Pour le Français, il était difficile de faire mieux. Richard Gasquet.
J'ai réussi à jouer mon tennis quand même, j'ai réussi à frapper. À chaque fois que j'ai eu la balle en revers, je l'ai frappé. Voilà, donc non, j'ai joué mon match. Pas grand chose à dire par rapport à ça. Après, j'aurais aimé faire ce premier set. Quand t'as un tie break, tu sais, ça peut tourner des deux côtés. Ça m'aurait fait du bien de le faire. Après, ça, c'est difficile après de le perdre contre lui. Il prend confiance. Voilà, toi, tu es, sachant que tous les jeux sont difficiles, après, je me fais breaker et ça va vite après.
Et on va revenir sur cette défaite de Richard Gasquet en demi-finale de Wimbledon tout à l'heure à 18h30 avec Eric Salio en direct de Wimbledon et avec également Sarah Pitkovski. Nicolas Karabatic fixé sur son sort. On parle bien sûr de l'affaire des paris suspects lors du match Montpellier-Cesson en mai 2012.
Oui, la star française du handball a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il écope de 10 000 euros d'amende. Son frère Lucas lui est condamné à 15 000 euros d'amende. Un verdict donc plutôt clément puisqu'il n'y a aucune peine de prison retenue. Mais Bakhti Ong, l'agent des frères Karabatic, n'est pas plus satisfait que cela.
C'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle, puisque la seule réponse attendue, c'était la relaxe. Donc il y a toujours contestation sur le fond du dossier, sur des éléments de droit qui n'ont pas été entendus, puisqu'il y a eu des condamnations. Quand bien même, elle serait plus légère que le réquisitoire du procureur. Donc, en un seul bloc, tout le monde fait appel.
Voilà, c'est clair. Tout le monde fait appel. Le message de Bactillon, joint cet après-midi par Vincent Delzesco.
On passe maintenant au football. Il se passe des choses sur le Mercato.
RMC, le Mercato Show.
Et le point sur le Mercato, c'est avec Mohamed Bouafsi. Salut Mohamed.
Salut Guillaume.
Et c'est officiel, l'international français Johan Cabaye évoluera à Crystal Palace la saison prochaine.
Oui, c'était un transfert attendu. Hier, le Paris Saint-Germain et Crystal Palace avaient trouvé un accord avoisinant 15 millions d'euros pour le milieu de terrain. Et ce matin, Johan Cabaye s'est engagé pour 3 ans avec le club anglais. Il y retrouvera son ancien entraîneur Alan Pardew, qu'il avait connu à Newcastle. Si ce choix peut paraître étrange pour certains, Cabaye sera titulaire indiscutable à Londres alors qu'il n'était qu'un simple remplaçant au PSG. L'international français avait besoin de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro 2016. Il veut absolument...
RMC, Intégral Tour.
En synchro, à l'époque, j'ai taquiné la pédale. C'est vrai.
Oui.
Voilà, je vous appelle parce que j'ai décidé de faire le Tour de France.
Bienvenue à la fête, cabane.
Virginie Fulpin.
Il est 18h18, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h sur RMC et Cyril Guimard est à Fougères. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Virginie. Ben oui, je suis à Fougères. Nous sommes rentrés en Bretagne.
En Bretagne, donc chez toi.
Oui.
Et en plus, on le savait que Mark Cavendish allait gagner ce sprint.
Oui, nous étions d'ailleurs les seuls à le savoir.
Je tiens à le répéter.
Et on n'avait pas ébruité l'info. Hein.
Absolument pas. Je t'entendais sur les dernières minutes de course te demander tout à l'heure à l'antenne si Mark Cavendish était sur le déclin. Bon ben voilà, je crois qu'on a la réponse.
Oui, en fait, je posais la question à mes collègues. Et journalistes,
qui eux doutaient.
Voilà, qui eux en doutaient. Je leur ai posé la question, mais est-ce que vous pensez que Cavendish est mort? Et donc, ils sont arrivés à la conclusion que, et moi je leur ai expliqué que c'était la dernière étape avant les Champs-Élysées que Cavendish pouvait gagner. Donc Cavendish ne pouvait pas perdre aujourd'hui. C'était évident.
Et en fait, je t'entendais dire aussi que bon, c'est pas un bourreau de travail et que bon, bah, il peut pas gagner sur les premières étapes parce que c'est là, en fait, c'est son entraînement.
Disons qu'il se remet au niveau. Il se remet au niveau, et j'ajouterais que ça veut pas dire qu'il ne s'entraîne pas, mais il n'arrive pas au départ des grands tours comme un vainqueur potentiel du tour. C'est-à-dire que il lui faut 2 ou 3 jours pour véritablement commencer à s'affûter parce que. Bon, c'est un coureur qui a un petit peu de problèmes de poids et il a besoin de 2 ou 3 jours pour perdre 2 ou 3 kilos. Et lorsqu'il a perdu ces 2 ou 3 kilos, à partir de ce moment-là, il devient irrésistible dans les sprints. Et on l'a vu aujourd'hui, même si les 150 derniers kilomètres étaient sur des pentes relativement importantes, du moins pour un sprint, puisqu'on était à peu près à 4% sur les 150 derniers mètres. Et ça allait en montant de plus en plus. Et là, quand il a fourni son effort, quand il est arrivé à la hauteur de Greipel, il s'est infiltré à la corde et là Greipel n'a pas existé et sur les 30 derniers mètres ça a fait de longueur quoi. C'est Cavendish qui, lorsqu'il se trouve dans une situation, j'ai presque envie de dire acculé parce qu'il n'a pas gagné, là il redevient un tigre, il redevient un boxeur, il redevient l'homme le plus rapide.
C'est quoi? C'est l'orgueil aussi qui joue dans ces cas-là?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est souvent vrai pour les grands champions. L'orgueil est là. On ne peut pas être ridiculisé. Enfin, il a pratiquement été ridiculisé sur tous les sprints depuis le départ. La première étape, il sort trop tôt, il se fait enrhumer. Le deuxième jour, dans le mur de huit, bon, n'en parlons pas, c'est pas sa tasse de thé. Mais à Amiens, comme sur les pavés, à chaque fois, il a vu là le gorille passer.
Oui, c'est vrai qu'il faisait presque de la peine hein, à un moment.
Bah, hein. Oui, il était un petit peu tristouné. Et puis, aujourd'hui, c'était fini. Il est redevenu le patron. Au minimum, l'espace d'une journée.
Donc, on a bien compté, ça fait 26 victoires d'étape pour Mark Cavendish sur le Tour dans sa carrière, ce qui est quand même énorme. Hein.
Oui.
On l'a dit, Merckx 34, Hino 28, ce sont les deux seuls qui en ont gagné plus. Est-ce qu'il peut les rattraper? Il a 30 ans, hein, on le rappelle, Mark Cavendish.
Oui, il peut les rattraper, mais je pense qu'il ne faut pas comparer les victoires de Bernard Hinault, les victoires d'étape bien sûr, de Bernard Hinault ou de Eddy Merckx, parce que ce sont des coureurs qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Et pour gagner 5 fois le Tour de France, vous faites la différence où ? Dans les étapes contre la montre, en règle générale, il y en a 2.
Et en montagne.
2 ou 3 étapes de haute montagne où il vous faut faire la différence pour remporter le Tour. Donc vous vous retrouvez régulièrement avec entre 3 et 5, voire quelquefois 6 victoires d'étape, alors qu'un sprinter, lui, il est limité sur le Tour.
Oui, il vient
il
pas là
limité
pour le gagner.
À 5 ou 6 étapes, il faut pas qu'il se rate, parce que le jour où il se rate, ça en fait une de moins. Dans la haute montagne, c'est plus difficile de se rater, quoi.
Aujourd'hui, on a eu une étape beaucoup moins animée que toutes les autres depuis le début du Tour. Bon, il y a eu une échappée, mais sinon, même Chris Froome le disait, c'était un peu reposant aujourd'hui.
On va dire que c'était une véritable, par le passé, dans la tradition, une véritable étape de transition. On sort d'étapes très difficiles, alors physiquement d'une part, mais surtout des étapes qui ont été très très usante sur le plan psychologique, par rapport à la tension nerveuse, par rapport à l'adrénaline. L'adrénaline pour être dans le coup, mais l'adrénaline aussi un peu négative de la peur, le stress. Et là, il y a un moment, ben, on le sait tous, hein, on peut pas faire 3 semaines dans un stress max. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait un relâchement, il faut que la cocotte minute, eh bien, elle fonctionne. Eh bien, ça a été le cas aujourd'hui. Demain, ce sera bien sûr une autre étape, mais c'est obligatoire. Tous les coureurs avaient besoin de dire, ouf,
on souffle
ça
un peu.
Frotte plus, il n'y a plus de risque de chute, à part Contador qui est tombé, mais c'était avant le départ réel, donc pas de souci.
Oui,
c'est simple, Contador, il n'avait pas chuté hier, donc on n'a pas parlé de lui, on a parlé des autres qui ont chuté. Donc,
oui, il fallait qu'il
parliez,
se mette à niveau,
vous parliez
d'Ego
tout à l'heure, donc il fallait bien qu'il ait sa petite chute pour qu'on parle de lui, et en fait, eh bien, il est le seul, on va dire, le seul des favoris dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'il est tombé avant le départ. Bon, c'était une petite carte postale, bien sûr, oui, vous l'aviez compris.
Bien sûr. Bon, l'autre favori dont on parle quand même forcément aujourd'hui, c'est Chris Froome, parce que cette fois-ci, il a bel et bien endossé le maillot jaune pour de vrai.
Oui, pour de vrai, bien qu'il était leader pour de vrai depuis ce matin.
Il avait simplement choisi de ne pas le porter par respect pour Tony Martin.
Oui, c'est... J'ai presque envie de dire par respect, oui, c'est... C'est un peu la règle, c'est un peu la coutume.
Oui, puis c'est un peu de frais, hein. Il était à peu près sûr de l'avoir aujourd'hui. Il n'a pas
oui,
non
tout
plus
à fait. Imaginons un seul instant que ce soit, un jeune coureur de l'équipe de Bretagne, par exemple, qui se retrouve là. Est-ce que lui ne l'aurait pas porté ? Je n'en suis pas certain.
Ben, c'est pas la même chose, c'est vrai, parce qu'on voilà. Se dit c'est peut-être ma seule chance de porter le maillot jaune
au moins
un
une
jour,
fois, si je
ou
le
peut-être dans
soir,
ma carrière.
Je le porterai jamais.
C'est sûr que dans ce cas-là, la question se pose
différemment.
Demain, on va pas se reposer, hein, parce que l'arrivée à Mur de Bretagne, c'est autre chose. Hein.
Oui, la montée de Mur de Bretagne, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Rappelez-vous, la dernière fois que nous sommes arrivés, c'était il y a 3 ans, et c'était tout simplement le futur vainqueur du Tour de France qui l'avait emporté. Alors, l'étape n'est pas très difficile dans sa globalité. On a bien des parcours un peu plus accidentés que ceux d'aujourd'hui, avec entre autres la côte du Mont de Bélair. On va souvent être en prise à partir des 80 derniers kilomètres, mais bon, faut pas s'en faire une montagne non plus. On n'a pas Roque Trézével, on passe pas la montagne noire, mais la course va se durcir dans les 5 derniers kilomètres pour 2 raisons. Parce que c'est une ascension difficile, longue, c'est moins dur que le mur de Huy, mais c'est plus long, et il risque d'avoir des écarts entre les meilleurs. Lorsque Cadel Evans avait gagné, il y avait eu des écarts, on avait vu les frères Schleck perdre 15 à 20 secondes, et puis il y a un coureur dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, on va dire presque l'éternel second de ce Tour de France, Peter Sagan qui est revenu à 11 secondes au classement général, et qui à mon avis cette nuit va faire des rêves en jaune comme il n'est pas permis. Il faut qu'il prenne tout simplement 2 secondes. Il faut qu'il gagne l'étape et qu'il prenne 2 secondes à Froome. Et c'est dans le domaine des possibilités dans ce type d'ascension. Donc le maillot pourrait peut-être encore changer d'épaule demain. Pourquoi pas ?
Ah bah oui, ça faisait 2 jours qu'on avait le même. C'est normal.
Ah
merci
oui,
beaucoup.
Non, là, on l'a pas supporté.
Merci beaucoup, Cyril Guimard. On te retrouve tout à l'heure à 19h avec Christophe Cessieux et toute l'équipe. Vous allez revenir sur la victoire de Cavendish et également parler de cette étape de demain qui se terminera à Mur de Bretagne. À tout à l'heure. Nous, on va partir dans quelques minutes à Wimbledon. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
18h31, l'intégral tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. Richard Gasquet a été battu par Novak Djokovic en demi-finale de Wimbledon, défaite sèche en 3-7. Eric Salio est notre envoyé spécial à Wimbledon. On va reparler de Richard Gasquet, mais d'abord le match qui se déroule en ce moment, la deuxième demi-finale entre Federer et Murray, et Roger Federer en démonstration là, hein.
Disons qu'il il est impressionnant. Oui, il est impressionnant puisqu'il mène une manche à 0, 7-5. Et au moment où on se parle, Virginie, il a une balle pour mener 2-7-0. Donc pour prendre un avantage quasi décisif face à Andy Murray qui écarte la troisième menace. Ah, ça c'est fort. C'est du très haut niveau, Virginie. 7-5 donc pour Federer. 5-4 Federer, mais 40 as sur la mise en jeu d'Andy Murray.
Alors on va revenir maintenant sur la défaite de Richard Gasquet face à Novak Djokovic. Sarah Pitkowski est avec moi en studio. Sarah, on n'a pas vraiment eu le temps d'y croire en fait.
Non, mais je pense que on n'était pas vraiment en position d'y croire. Forcément, Novak Djokovic était ultra favori. Je pense avec beaucoup d'objectivité qu'un bon résultat de Richard aurait été d'aller shipper un set à Djokovic. Avec cette explication, c'est que le tennis que produit Richard est parfaitement en adéquation à ce qu'attend et ce qu'aime Novak Djokovic, c'est-à-dire que il aime les joueurs qui ne le bouscule pas trop, qui lui laisse le temps de jouer, qui lui laisse le temps d'imposer son propre rythme. Et c'est le tennis de Richard. Richard, c'est pas un serveur volleyeur, c'est pas un frappeur fou en deux coups de raquette. Et c'est un petit peu ces tennis-là qui ont gêné Djokovic, et notamment contre Kevin Anderson, sur les tours précédents. Richard, il aime le beau jeu, il aime prendre son temps. Et face à un Djokovic qui joue près de la ligne, qui joue très vite, finalement, il y a pas beaucoup de place pour déranger le numéro 1 mondial.
Mais justement, entre le tennis qu'il aime et le tennis qu'il faut pratiquer pour battre quelqu'un comme Novak Djokovic, est-ce qu'il aurait pas pu se dire « je vais changer mon jeu » ?
Alors, il aurait pu. Pour ça, il aurait fallu que l'une de ses armes soit au rendez-vous aujourd'hui, c'est le service. Et Richard Gasquet a servi à tout juste 50% de première balle. Donc, forcément, il est exposé face au meilleur relanceur du circuit. Ça, c'est un état de fait. Pourquoi il est un pourcentage si faiblard? Parce qu'il a une épaule douloureuse et qu'il y a un petit problème aux abdominaux, des conséquences du match contre Wawrinka. Donc déjà, pour se protéger face aux meilleurs relanceurs, c'est d'avoir un pourcentage qui flirte avec les 70-75%, et puis surtout frapper fort. Et c'est ce que n'a pas réussi à faire Richard. Donc en fait, même sur ces jeux de service, il était exposé. Donc en fait, c'est déjà extrêmement épuisant de jouer le numéro 1 mondial qui vous impose un rythme de jeu. Mais si, en plus, vous n'avez pas le temps sur vos propres jeux de service de vous donner une petite respiration, en fait, vous êtes toujours dans, vous jouez tout le temps dans le rouge. Donc ça a tenu un set. Ça a tenu un 7, 7-6, ça a tenu à 6-6 de partout. Et puis après, il manque l'oxygène et il manque le fait de jouer à ce niveau-là régulièrement. Voilà.
Et il y a aussi peut-être un truc mental, parce que moi j'avais l'impression que le body language, comme on dit, de Richard Gasquet, au fur et à mesure du match, montrait qu'il avait déjà un peu lâché dans sa tête.
Alors là, je vais te contredire.
Très bien.
Je vais te contredire, parce que s'il y a bien une chose où j'ai vraiment le sentiment qu'on découvre un nouveau Richard Gasquet, c'est dans cette attitude de combattant. Alors, il aura jamais l'œil du tigre, hein. Il sera jamais avec le couteau entre les dents. En tout cas, il aura jamais ces attitudes-là de je vais mourir sur le court, quoi qu'il advienne. Mais il a quand même, il dégage quand même une autre forme de sérénité, de combativité. J'ai vraiment le sentiment que avec l'expérience et avec l'âge, on trouve un Richard Gasquet mieux sur le court et qui a pas peur d'aller au combat. Et même à la fin du match, mais même mené, même breaké au début du deuxième et du troisième set, il continue à être là avec ses armes à lui. Mais je trouve moins Calimero qu'on aurait. Voilà, qu'il avait l'habitude d'avoir ou d'avoir la tête rentrée dans les épaules. Je trouve qu'il y a une attitude beaucoup plus positive et beaucoup plus combattante pour la part de Richard, même dans cette défaite.
Eric, toi, tu as vu Richard Gasquet juste après sa défaite. Comment il analysait cette défaite face à Novak Djokovic?
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec Sarah. Elle a superbement résumé ce tournoi et cette demi-finale. Il sent qu'il est prêt, mais il sent aussi qu'il est
un petit peu loin des Cador. Donc il va falloir qu'il
progresse.
C'est
un peu si loin si proche, c'est ça, Richard Gasquet.
Exactement, mais c'est une formule un peu bateau, mais elle résume bien la situation parce que il faut qu'il progresse dans beaucoup de domaines. Alors, est-ce qu'il peut encore progresser au service? Ça, c'est une grande question parce que ça fait des années quand même qu'on sait qu'il ce sera jamais le meilleur serveur du monde, qu'il aura jamais un pourcentage énorme, parce que dans l'attitude, dans les jeux, dans les gestes, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs. Il faut juste que il refasse des perfs comme celles contre Wawrinka qui vont marquer les esprits, qui vont marquer le vestiaire aussi. Comme ça, à l'avenir, on n'abordera plus les matchs comme Richard Gasquet, comme un
très beau joueur, mais
voilà,
on sait qu'il n'y arrive pas.
Mais qui sait pas gagner. Non, il faut que ce match contre Wawrinka va faire beaucoup de bien à Richard, comme les défaites qu'il avait subies en 5-7, les fameux renversements, vous savez, les matchs où il menait 2-0, avant de perdre en 5, lui a fait beaucoup de mal. Ce match contre Wawrinka a marqué les esprits et va lui faire le plus grand bien, et moi je suis convaincu que c'est un toboggan vers le retour, vers le top 10.
Très bien.
Parce que là,
Eric,
il sera 13 au prochain classement ATP. Donc, tu vois, c'est quand même une belle progression. On 13, aura 11, 13e. 12, 13.
Ah, ça commence à devenir pas mal avant le quart de finale de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne. Eric, juste un petit mot sur le match en cours. Andy Murray fait de la résistance.
Ah, c'est un dixième jeu dantesque, hein. 7-5 Federer, 5-4 Andy Murray, et Federer qui a sauvé 4 balles de 7. L'atmosphère est grandiose, et à l'instant, Murray qui s'en sort peut-être si le Hokkaï veut bien lui sourire, parce que c'est un ace qui a été annoncé faute, donc ça peut faire 5 partout Virginie, mais c'est du très haut niveau, les stats sont affolantes, on affole les compteurs, 35 coups gagnants pour Federer, les fautes, attention, donc nouvelle balle pour essayer d'égaliser à 5 jeux partout dans ce deuxième set qui est crucial, parce que si Federer se détache à 2-7-0,
ça peut être compliqué pour Andy Murray, effectivement. On va continuer à suivre cette demi-finale avec toi, Eric, salut, en direct de Wimbledon dans l'Intégral Tour. Dans un instant, on va à Marcoussis, c'est la Coupe du Monde de rugby très bientôt, et notre invité sera Yannick Nianga. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h42, l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h sur RMC. On continue à suivre Wimbledon, la deuxième demi-finale après la défaite de Richard Gasquet face à Novak Djokovic. C'est très très serré entre Roger Federer et Andy Murray. 1-7-0 pour Roger Federer. Le Suisse mène 5-4. C'est Andy Murray qui sert. Et on oscille entre égalité et avantage. Ça fait très longtemps que ce jeu a commencé. On continue à le suivre, évidemment, sur RMC. Mais là, maintenant, si je compte bien, la Coupe du Monde de rugby, c'est dans 70 jours.
RMC Rugby 2015.
Et notre invité ce soir est Yannick Nianga, flanqueur du 15 de France et du Racing Métro. Maintenant, bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Laurent Depré est à vos côtés à Marcoussis, un de nos spécialistes rugby. Salut Laurent.
Salut Virginie, bonjour Yannick.
Alors Yannick, vous êtes à Marcoussis depuis le début de la semaine. Si vous deviez tirer un premier bilan, ce serait quoi? C'est dur?
Ouais, difficile. Difficile parce que voilà, les journées commencent tôt et finissent tard, et le contenu des journées est assez éprouvant, donc voilà, ce sont des difficiles journées, mais on est quand même très heureux parce que voilà, on prépare quand même une Coupe du Monde et c'est un événement qui vaut le coup de souffrir.
Racontez-nous par exemple une journée type là à Marcoussis en ce moment.
Aujourd'hui, admettons, ça a été debout à 7h moins le quart. On commença par des étirements, un petit réveil musculaire, étirement, massage. Ensuite, on va déjeuner. À 8h, on a muscu des jambes. Ensuite, on a atelier rugby. Donc à chaque fois, c'est 1h30 de muscu à peu près, 1h de rugby. Ensuite, on est rentré, conférence de presse, repas à midi et demi. 13h, pardon, 15h, ben on fait de 14h à 15h, une petite heure de sieste, et puis 15h, on a à nouveau un petit peu de musculation, enfin du core training, ce qu'on appelle la musculation profonde, et après une grosse séance de physique qui va durer une bonne demi-heure, mais dans laquelle on va vraiment repousser les limites de notre corps, quoi. Voilà.
S'il y a un truc que vous pouviez zapper, là, on vous dit, allez, aujourd'hui, vous choisissez, il y a un truc que vous avez le droit de pas faire, ce serait quoi?
Ah, j'ai pas le droit de le dire.
La presse?
Non. Ouais, bon, la presse, je vous avoue que voilà, tout ce qui est extra sport, on a plutôt envie de se reposer, quoi. Mais non, mais après, on sait pourquoi on le fait, donc c'est difficile de dire si on voudrait zapper ça. Mais c'est sûr que voilà, s'il n'y avait pas de Coupe du Monde au bout, croyez-moi, je tiendrais peut-être pas ce rythme-là aussi longtemps.
Parce que Virginie, effectivement, il y a la Coupe du Monde, ça c'est un bel objectif, mais il y a aussi une compétition en interne qu'on peut pas occulter. Ils sont 36 et ils seront 31 à partir du 16 août ou du 23 août. Ça c'est pas le propos de ce soir. Comment ça se vit cette concurrence, Yannick?
Mais pour l'instant, je vous avoue qu'on le vit pas trop parce que, comme j'ai dit, les journées sont assez compliquées et on pense juste à bien s'entraîner, à donner le meilleur de soi à l'entraînement et à passer les journées parce que croyez-moi, avec les journées qu'on a, 16 août pour l'instant nous paraît très très loin et donc voilà, on n'y pense pas trop, mais c'est sûr qu'avec plus la date va approcher et plus on y pensera, et là à ce moment là je tiendrai peut-être pas le même discours, mais en tout cas là on pense plus à la Coupe du Monde quoi. On a vraiment tous à cœur de bien préparer cette Coupe du Monde et puis après bon, bien entendu que dans quelques semaines il va y avoir des déçus et des heureux, mais on n'y pense pas encore.
C'est pas votre première Coupe du Monde, Yannick Nianga. Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui est différent? Comment vous le vivez aujourd'hui?
Ben, ce qui est différent, c'est que je me rends compte déjà que c'est exceptionnel, parce que moi, ma première Coupe du Monde, j'ai joué à 23 ans, et puis la suivante, j'y étais pas. Et puis donc là, 8 ans après, je prépare ma deuxième. Donc on se rend compte que ben, ce qui paraît acquis ou évident ou logique à 23 ans, ben, ne l'est pas du tout. Et donc on arrive avec beaucoup plus de... Ben, en étant beaucoup plus conscient des choses et donc en étant beaucoup plus consciencieux. Et voilà, on laisse beaucoup moins de choses au hasard ou au destin. Et on savoure un peu plus aussi.
On apprend la valeur des choses.
Ouais, sans doute qu'on apprend la valeur des choses, mais je pense l'avoir toujours eu, mais c'est vrai que quand on n'a pas certaines choses, qu'on se rend compte à quel point elles sont chères.
Alors justement, il y a quand même quelque chose qui nous brûle les lèvres, on a envie de vous parler de ça, n'est-ce pas, hein, Virginie? C'est que c'est peut-être à cause de ça que l'on a pu vous voir, par exemple, ému aux larmes sur une Marseillaise, parce qu'il y avait aussi un énorme travail pour revenir à ce niveau, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à Marcoussis pour préparer la Coupe du Monde.
Ouais, sans doute. Hein. J'avais pas contrôlé ce moment-là, mais c'est vrai que il y a eu 5 ans entre ma 25e et 26e sélection. Donc comme j'ai dit, de 23 à
27, 28
à 27,
ans.
28 ans, mais voilà, ça paraît long. C'est même extrêmement long pour un sportif. Il y a des moments où tu t'y crois, il y a des moments où tu te dis que tu reviendras, que tu vas bosser pour. Il y a des moments où tu penses que c'est terminé. Et puis des fois, dans les moments où tu crois le moins, que souvent même ça a été ça, avec un moment tu crois le moins qu'on t'appelle, donc ça m'a appris aussi à plus me poser de questions, à savoir que il faut faire les choses, il faut être hyper consciencieux dans tout ce qu'on fait, et il faut laisser le choix aux personnes qui choisissent, et ça c'est pas de notre ressort et on n'a aucun pouvoir là-dessus quoi, donc faut pas trop se poser de questions, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me donne à fond, je me suis bien préparé pour arriver ici déjà dans une bonne forme, et j'espère que tout le travail qu'on fait va m'amener dans ma meilleure forme quoi, donc pour pouvoir préparer l'événement de la Coupe du Monde du mieux possible.
Et Yannick Nianga est l'invité de l'Intégral Tour sur RMC. Yannick, si vous deviez nous convaincre, là, pourquoi la France va gagner la Coupe du Monde?
Mais pourquoi la France va jamais gagner la Coupe du Monde? Parce que la première des choses, c'est qu'elle n'a jamais gagné. Donc, elle a encore plus faim que les autres nations de la gagner. La deuxième, c'est parce qu'elle est pas du tout favorite. Qu'on n'a jamais été aussi bon que quand on est au pied du mur. Et la troisième, c'est parce qu'elle elle a vraiment les qualités pour pouvoir gagner. Parce que quand vous prenez tous les joueurs qui composent ce groupe de 36, ben, on n'a rien à envier à aucune nation. Donc, il y a juste à se convaincre de ça et à avoir l'attitude correspondante pendant les 4 ou 5 mois qui viennent.
Est-ce que vous en parlez entre vous tous les jours de la Coupe du Monde, de l'objectif, ou est-ce que pour l'instant on se tait un peu et on laisse venir?
Non, pour l'instant, comme je l'ai dit, les journées sont dures, donc on s'entraîne très dur et ça sert à rien d'en parler en fait. Voilà, ça sert à rien d'expliquer qu'on va gagner la Coupe du Monde ou de dire les raisons, parce que c'est vrai que voilà, aujourd'hui je sais que je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi à beaucoup de gens qui supportent l'équipe de France, et c'est pour ça que je leur demande d'avoir de l'espoir. Mais on sait que nous, à l'intérieur du groupe, ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de le dire. Et ce qu'il faut, c'est le faire, tout simplement. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est de rien lâcher, quoi. De rien lâcher à chaque entraînement, de montrer qu'on a tous envie de donner le meilleur de soi-même, et de montrer que les uns peuvent compter sur les autres. Et voilà, ça va créer une émulation qui va faire que mais qu'on va arriver avec un très bon niveau à cette Coupe du Monde.
Et Virginie, demain, ça sera l'occasion offerte de tester la popularité des Bleus et puis de vérifier sur zone que vous êtes effectivement impliqué dans les entraînements. Entraînement public à Marcoussis. Ça, voilà. Il va y avoir de la jeunesse, des cris, il va y avoir des autographes. Ça
voilà, c'est plaisir, le week-end, il fait beau en plus, ça va être parfait. Vous dites que c'est dur, Yannick, évidemment, ça on vous croit. Il y a aussi des moments sympas. J'imagine que vous avez retrouvé votre pote Dimitri Zarzewski, notamment.
Oui, entre autres. Hein. C'est mon meilleur ami, mais j'ai beaucoup d'amis aussi ici. Mais oui, c'est dur, mais on prend du plaisir, même quand c'est dur. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est, même ces moments-là, même les moments difficiles, on les apprécie, quoi. Et puis, c'est surtout quand... Croyez-moi, on est fiers de terminer les séances et de les avoir faites. On se congratule pendant les séances, on s'encourage. Et puis après, il y a quand même de la vie aussi dans le groupe. Mais bon, ça, on le garde aussi entre nous, parce que c'est bien que le groupe ait cette intimité et ces petites choses qui lui sont chères. Donc voilà, croyez-moi, ce groupe vit bien. On est content d'être là et même si c'est dur, il y a personne qui a envie de partir du groupe des 36.
Ce bloc de 20 jours là qui va se terminer après le stage de Ting, qui promet aussi d'être spectaculaire au niveau physique, 2100 mètres d'altitude quand même, faut y aller. Il y a quand même une belle carotte derrière. C'est 4 ou 5 jours de repos. C'est une nouveauté ça dans la préparation.
Oui, enfin je sais pas, je peux pas parler pour 2011 parce que j'étais pas, mais en tout cas en 2007, je me souviens qu'on avait des week-ends, mais je me souviens pas d'avoir eu comme ça 5 jours entiers. Mais je pense que ce sera forcément nécessaire parce que c'est sûr que oui, continuer comme ça non-stop, je sais pas si c'est très très bon pour le corps, donc d'avoir un petit peu des séquences ou des, je sais pas comment dire, des périodes.
Des plages de récupération en famille, etc.
C'est très important. Après, voilà, il y a pas mal de choses qui sont organisées pour qu'on coupe pas les points avec les familles, ça c'est très important aussi, on va les voir ce week-end, non, ça c'est non, franchement la préparation est bien pensée. Maintenant, voilà, ça nous met la pression sur nos joueurs pour être au niveau de ce qui nous est proposé là pendant ces 2 mois. Ça va être à nous ensuite de le rendre sur le terrain.
Dernière chose, Yannick, vous avez signé au Racing Métro après 10 ans passés à Toulouse. Vous avez bien profité de cette Coupe du Monde, hein, parce qu'après en bleu, vous allez retrouver Guinoves.
Ouais, mais déjà, il va falloir qu'il me sélectionne, il faut que je le retrouve. Et ensuite, oui, profiter, je profite de chaque instant. Donc, vous savez, je vous parlais tout à l'heure de ma longue absence en équipe de France. J'ai connu des blessures aussi. Donc, je sais que chaque moment est important et qu'il faut en profiter. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment à fond dans cette Coupe du Monde. Ensuite, dans quelques mois, je serai vraiment à fond dans mon aventure avec le Racing et je penserai pas à autre chose. Et puis après, si j'ai la chance d'être d'un nouveau sélectionné avec Guinoves, j'irai avec grand plaisir et je serai à fond dedans aussi, donc il n'y a pas de problème là-dessus.
Merci beaucoup Yannick Nianga d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC. On vous souhaite bon courage, bonne préparation et puis à très bientôt sur notre antenne.
Merci. Au revoir.
Et la Coupe du Monde de rugby, je connais quelqu'un qui va y aller, on va jouer.
Rejoignez la tribune des supporters avec Société Générale et RMC.
À l'occasion de la prochaine Coupe du Monde de rugby, vous jouez à notre grand jeu RMC Société Générale. Le principe est très simple, vous avez laissé vos messages au 32-16, touche 9, toute la semaine pour encourager le 15 de France. Nous, on a tout écouté et on a sélectionné le meilleur. On a le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir Virginie, bonsoir RMC, bonsoir les Bleus.
Et voilà, on va écouter votre message tout de suite Nathalie.
Allez, les Bleus. Je suis née près d'un terrain. On m'a appelée Nathalie et mon père m'a offert un ballon ovale. Vive l'ovalie.
Voilà, bravo Nathalie, oui, bravo pour ce message.
Oui. Écoutez, vraiment, je suis ravie, je suis très heureuse vraiment à RMC. C'est vraiment un très très beau cadeau. J'adore les Bleus et
c'est
on va gagner.
Deux places pour la Coupe du Monde de rugby. Hein. Vous assisterez au match du 15 de France, France-Canada, oui, le 1er octobre. Oui.
Oh là là, super. Je suis vraiment ravie. C'est vraiment super.
Eh ben merci à vous Nathalie d'écouter RMC. Félicitations et merci. Bon match d'ores et déjà.
Ben merci beaucoup RMC, merci. Je vous adore. Franchement, ne changez rien. Vous êtes une radio tip top et vive les Bleus, on va gagner.
Allez, on va gagner. Pour l'instant, à Wimbledon, c'est Roger Federer qui gagne. En tout cas, il mène 2-7 à 0 face à Andy Murray. En demi-finale, il vient de remporter la deuxième manche, 7 jeux à 5. Christophe Cessieux, lui, est à Fougères.
Oui.
Et il a gagné sa place pour le Tour de France, là, en première loge.
Exactement. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit poème pour les coureurs cyclistes, Virginie. Je sens que tu peux avoir de l'inspiration. Est-ce que tu aimes le vélo?
Ouais, promis, j'en fais un pour lundi.
Non, tout à l'heure.
Non, tu me laisses le week-end. Non, laisse-moi le week-end. Pour réfléchir et tout.
Oui, c'est vrai, il va falloir réfléchir.
Ah oui, pour essayer de trouver l'inspiration.
Ou peut-être un hymne à la gloire de Cavendish, ton idole.
Je peux faire ça. Je peux le faire en anglais, du coup?
Ah oui, tu peux le faire en anglais, mais dans une heure. Là, tu n'as plus qu'une heure pour travailler.
Ah bah merci.
À tout à l'heure, Virginie. On te retrouve évidemment à partir de 20h avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon pour les questions des auditeurs à nos champions à l'issue de cette 7e étape du Tour de France. On va évidemment débattre des sujets du jour et notamment donc le retour au sommet de Mark Cavendish. 26e victoire d'étape sur les routes du Tour. Parviendra-t-il à battre le record d'Hino, 28, et surtout d'Eddy Merckx, 34 victoires? On en parle juste après les infos de 19h dans l'Intégral Tour.
RMC, Intégral Tour.